Dans nos communautés, une émission de Christiane Hervault sur Radio Alliance Plus.
Bonjour, chers auditeurs et chères auditrices de Radio Alliance Plus. Bienvenue pour notre émission. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Nathalie Gonzalez. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Nous sommes heureux, Radio Alliance Plus et moi-même, de vous recevoir et de faire votre connaissance, bien que nous ayons entendu parler de vous déjà de multiples façons, un peu à la radio sur France Culture en plus, et puis sur leur journal Réforme, en tout cas pour ma part, tout puisque vous avez participé à un article pour vous présenter. Et puis, on va donc faire connaissance avec vous, puisque vous avez plusieurs casquettes dans votre profession, notamment sage-femme, sexologue, spécialisée aussi dans les violences conjugales. Et puis, vous êtes aussi chrétienne, membre de l'Église réformée évangélique de Vauvert, où vous habitez.
Exactement.
Voilà, donc un petit peu brièvement, donc on va aller un peu plus loin dans le, le sujet de Nathalie Gonzalez. Qui est-elle? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours de vie personnel, spirituel, et puis après professionnel, bien sûr?
Ok. Donc, j'ai grandi à Alès. Mes parents sont à l'église réformée, l'église protestante unie aujourd'hui. Donc, j'ai grandi dans ce milieu-là. J'ai fait beaucoup de scoutisme, qui m'a donné cette notion d'engagement dans ma vie, je crois. Et puis, dans mon enfance, j'ai participé à plein de choses dans l'église, etc. C'était une part importante dans notre famille. Et puis après, à l'adolescence, comme beaucoup, j'ai un peu questionné, je mets ça de côté, c'est important, c'est pas important, enfin voilà. Et puis, j'ai fait un petit virage, après une petite pause, j'ai fait un petit virage où je suis allée découvrir un petit peu plus le monde évangélique que j'ai découvert vers ma vingtaine, là où j'ai rencontré mon mari aussi. Donc ça c'était il y a un certain temps. Et puis après j'ai été un peu dans différents endroits et jusqu'à arriver à me poser à Vauvert dans cette église réformée évangélique.
Ouais. Donc vous y êtes depuis combien de temps, si c'est pas indiscret maintenant?
Non, c'est pas indiscret, ça fait 20 ans. Je dirais. Voilà, on est arrivé en 2005 si je me souviens bien, oui, c'est ça. En 2005 avec deux petites filles sous le bras et puis le troisième petit garçon est arrivé quand on était à Vauvert. On a fait un petit passage à Antibes, sur la Côte d'Azur, pendant 5 ans, après notre mariage, histoire de quitter un peu le nid et de faire notre propre histoire, quoi. Et puis, on est quand même vite revenu dans le Gard et auprès des familles, parce que c'est quelque chose qui est important pour moi, pour nous.
Donc, là, vous êtes bien implantée à Vauvert, et dans ce coin-là, vous avez donc voulu avoir un cabinet de sage-femme. Et en plus, donc ce métier de sage-femme, vous l'avez commencé dès les débuts de votre formation. Ça a été votre objectif de vie très jeune ou c'est venu plus tard?
Alors, quand je suis partie faire mes études, après mon bac, je suis allée en fac de médecine. J'ai fait un an de médecine, sauf que la liberté d'arriver dans la grande ville, je n'ai pas vraiment bien su résister aux joies de la vie étudiante. Et la fac de médecine, si on ne bosse pas de longue, ça ne pardonne pas. Donc, je n'ai pas du tout réussi cette première année-là. Et puis, c'était une année assez difficile psychologiquement. Je me suis sentie finalement, moi qui rêvais de liberté, je me suis trouvée assez isolée. Je n'étais vraiment pas bien. J'ai fait des rencontres qui ne m'ont pas vraiment fait beaucoup de bien, on va dire ça comme ça. Et puis, c'est là où j'ai eu une espèce de retour spirituel assez important où je crois que j'ai remis vraiment Dieu dans ma vie, non pas qu'il était peut-être parti, mais j'avais un peu oublié qu'il était là, on va dire ça comme ça. Et puis il s'est passé un peu un truc, alors c'est pas du tout ma culture ni d'église ni même encore aujourd'hui, mais je crois que Dieu m'a vraiment parlé à ce moment-là où j'ai voulu retenter ma fac de médecine. Là, j'ai vraiment travaillé énormément et tout, mais ça suffisait pas. Et puis à un moment donné, on était jeunes, on commençait à se fréquenter avec mon mari, puis il est venu me voir dans mon appart à l'époque, et il m'a fait écouter une émission de radio catholique. Et sur cette radio, il y avait une sage-femme qui parlait. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu l'impression que c'est Dieu qui me disait « va là-bas ». Je ne sais pas, je me suis mise à pleurer et tout, enfin c'est très bizarre. Alors que j'y connaissais rien, c'est un métier que je connais pas. Les gens pensent aux bébés, tout ça, mais moi, c'était pas du tout mon truc, en fait. En vrai, les sages-femmes ne voient pas beaucoup de bébés, les sages-femmes s'occupent plutôt des femmes. Donc, voilà, du coup, je sais pas, j'ai pris ça comme, bah, vas-y. Et c'est ce qui est, voilà, comme je vous dis, assez inhabituel dans ma manière de vivre ma foi et de comprendre les choses. Mais enfin, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Je n'ai pas de meilleure explication à donner de pourquoi je suis sage-femme aujourd'hui. À l'époque, je n'aurais pas pensé, je pense, c'est un métier que je ne connaissais pas. J'avais l'impression que ça ne me correspondait pas du tout. Et en réalité, voilà, je suis partie dans les études. Il y avait un concours, mais bon, ça a été. Je suis partie faire mes études et vraiment, ça a été la passion tout de suite, en fait. Il y a une espèce de truc là qui m'a pris dans les tripes de me dire mais c'est là que je veux être, c'est ça que je veux faire, être auprès des femmes. Il y a vraiment quelque chose qui se joue là. Donc au début, beaucoup autour de la maternité, effectivement, parce que pendant les études, on est voilà, à l'hôpital, etc. Et puis donc après, j'ai fait une quinzaine d'années d'hôpital. Et après, ben, j'ai voulu m'installer en libéral pour être un peu plus libre aussi de mes horaires, de mon choix, de mes orientations. Même si j'ai beaucoup aimé l'hôpital aussi. Du coup, j'ai quitté les accouchements, donc c'était un peu triste. Mais voilà, il faut faire des choix dans la vie, n'est-ce pas? Et puis en libéral, on a à cette époque-là, les compétences des sages-femmes ont été élargies. Et du coup, on s'est mis à faire beaucoup de suivi gynécologique de prévention, contraception, etc. Et donc, j'ai découvert encore un autre univers. Et je pense que c'est à partir de là que ça a commencé à me titiller un peu sur la sexualité, parce que je voyais qu'il me manquait des choses. Et c'est aussi à partir de là que j'ai commencé à voir l'ampleur des violences faites aux femmes, en fait, violences conjugales, violences sexuelles. Je pense qu'à l'hôpital, on court, en fait, donc j'avais moins réalisé ça, je pense. Ou alors, je le voyais, mais c'est des femmes que je voyais le temps de l'accouchement, puis après, elles partaient, je ne les revoyais plus. Et c'est... Puis j'avais mes enfants petits, j'étais peut-être dans autre chose aussi. À un moment donné, vous savez, à la quarantaine, comme tout le monde, hein, on prend les choses avec un peu plus de profondeur, peut-être. Donc voilà, quand j'ai ouvert mon cabinet à l'époque, il y a une petite quinzaine d'années, j'ai commencé à avoir des nouvelles choses qui ont germé chez moi.
Oui, il y a un grand... Une grande découverte d'un univers très large, en fait, partir de ce métier que vous pratiquez toujours. Oui. Et ensuite, vous êtes formée pour être sexologue. Mm. C'est une formation particulière, c'est un diplôme universitaire aussi, que oui. Vous avez fait à Toulouse, à Montpellier ou...
Alors, oui, alors le souci qu'on a, c'est que le mot sexologue en lui-même n'est pas protégé, c'est-à-dire que personne ne peut s'installer et dire « je suis sage-femme » si on n'a pas les études de sage-femme. Mais par contre, n'importe qui peut s'installer et dire « je suis sexologue » même sans avoir fait les études de sexologie. C'est ça qui... Il faut que les gens fassent attention à qui ils vont voir et bien regarder les diplômes. Voilà. Mais sinon, effectivement, il existe un diplôme en sexologie, diplôme universitaire sur 3 ans, que j'ai fait à Toulouse en théorie, sauf que c'était 2019-2022. Donc en 2020, il y a eu un petit peu le Covid qui arrivait par là. Donc on a fait quasiment tout en visio, finalement. Bon, en même temps, je me suis fait opérer du dos, j'avais des gros soucis de santé, donc finalement c'était ce qui m'a permis de continuer, sinon j'aurais pas pu continuer. Donc voilà, j'ai fait ce diplôme-là, puis après d'autres formations derrière pour compléter, des choses un peu plus pratiques, parce que l'université c'est super intéressant, vraiment j'ai adoré, mais ça reste théorique. Donc voilà, après j'ai continué, puis c'est jamais fini, hein, de toute façon là, on est toujours en train d'apprendre et il manque toujours des choses, mais c'est ça qui est intéressant.
Et vous avez, qu'est-ce qui a fait ce choix de cette orientation nouvelle, finalement, de... Il faudra que vous nous expliquiez quand même ce que c'est que la sexologie, hein, parce que c'est un mot, c'est vrai, qui
oui,
est un peu...
on ne comprend pas trop de quoi il s'agit, ouais.
Mis un peu à toutes les sauces, je dirais, si on peut dire
c'est ça
comme ça. Et donc, il faut un petit peu orienter notre conversation pour que ça soit plus précis pour les auditeurs. Donc, mais vous, qu'est-ce qui vous a... fait évoluer, je dirais.
Ouais, bien sûr, oui, continuer. Mon premier questionnement, c'est que les femmes avaient des questions sur leur sexualité quand elles venaient pour leur suivi, etc. Et j'avais pas de réponse, notamment sur les douleurs, par exemple. Entre 10 et 20% des femmes ont des douleurs dans la sexualité. C'est un truc dont on parle assez peu. Et moi, j'avais rien d'autre à leur dire à part mettez du lubrifiant ou je sais pas. Enfin, bien sûr, ça suffit pas. Je le dis à tout le monde, ça ne suffit pas. Et donc, c'était assez frustrant pour moi de me retrouver face à ces incompréhensions-là sur d'autres choses, etc. Mais en même temps, j'avais cette petite voix qui me disait oui, mais tu vas aller étudier ça, mais ça se fait pas en tant que chrétienne, c'est bizarre, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens. Et puis, comme vous, enfin, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est quoi ce métier en fait. J'avais cette espèce de truc là où je sentais que ça m'appelait, mais j'osais pas y aller. Pendant plusieurs années, j'ai sauté d'un pied sur l'autre, j'ai tergiversé. Et puis après, j'ai fait une formation à la relation d'aide chrétienne, une formation à l'écoute, en fait. Et là, on a rencontré une sexologue chrétienne, donc, et qui nous a fait des interventions. Et là, je me suis dit, waouh, c'est ça que je veux faire, en fait. Bien sûr, on veut le faire. Bien sûr, c'est intéressant. Bien sûr, ça nous concerne. Bien sûr, il y a des besoins. Qu'est-ce que c'est cette histoire de se cacher, là? Mais bon, il fallait que ça chemine un peu. Donc, voilà pour ma motivation. Je n'avais pas du tout encore prévu de m'en occuper dans l'église au départ, mais voilà, c'est arrivé après. Et la sexologie, en fait, c'est d'apaiser les souffrances dans la sexualité. C'est vraiment ça. On accompagne les gens dans les souffrances, dans les difficultés. Donc, en réalité, les gens, ils imaginent, je sais pas, des trucs hyper ou fun, ou bien on va avoir des accessoires ou des je sais pas quoi. En réalité, on a des mouchoirs. Et les mouchoirs, c'est pour pleurer. Ou bien c'est pour parler des émotions, des choses qu'on vit, qu'est-ce qui bloque, comment ça se fait, est-ce qu'il faut parler de la relation, est-ce que c'est un problème émotionnel, est-ce qu'il y a des. Aussi au niveau corporel, physique, etc. Et puis, voilà. Donc, tout ça, vraiment, c'est un métier du soin et d'apaiser les souffrances. Voilà, c'est vraiment ça, quoi. Mm-hmm.
Merci bien de préciser un peu les objectifs, oui, et les besoins aussi qui sont, je pense, assez, oui, énormes, oui, et qui ne sont pas souvent dits ou un petit peu sous le couvert, où on, oui, des fois on n'ose pas trop en parler, notamment dans nos églises, je dirais, oui, ou peut-être même plus même à cause de nos églises, de l'éducation religieuse qu'on a pu avoir. Ça s'est sans doute développé un petit peu différemment maintenant, avec les jeunes qui parlent peut-être plus facilement, quoique ça peut être aussi toujours un peu un sujet tabou. Donc, je pense que vous avez trouvé ça aussi dans votre parcours. Et avant de parler justement d'une manière, de la manière dont vous travailler avec les personnes, puis les questions qui peuvent être qui peuvent vous être posées, je vous propose que nous écoutions ce que vous avez choisi pour, comme pause musicale, India
Arie, ouais, with the light, a holy light, la, voilà, lumière qui vient éclairer nos petits coins sombres,
voilà. Donc, on va se faire du bien en écoutant cette musique maintenant, et puis nous reviendrons juste après pour continuer notre conversation.
Hey, yeah, yeah. Oh, there is a light, a holy light. There is a light, a holy. Shining for you. Spirit, oh, Holy Spirit is all around you. The Holy Spirit is shining for you, coming in to make you whole. Is shining for you, coming in to make you whole.
Vous êtes bien sur Radio Alliance Plus, vous êtes sur le 103.2. Vous nous écoutez ou en DAB+, ou bien peut-être en podcast déjà, parce que vous savez que ça va très vite les podcasts et vous pouvez les écouter rapidement sur radioalliance-plus.fr. Je suis avec Nathalie Gonzalez, sage-femme, sexologue, spécialisée dans les relations aux femmes notamment. Mais ma question justement par rapport à la sexologie, c'est est-ce que vous avez des demandes autant des hommes que des femmes, ou plutôt des femmes qui sont orientées vers vous, ou est-ce qu'elles vont plus facilement vers vous parce que vous êtes une femme aussi peut-être?
Alors, je pense que je c'est un choix après que j'ai fait. Je suis pas trop sortie de ma zone de confort, c'est-à-dire que j'ai fait le choix d'accompagner les femmes seules ou en couple parce que c'est là qui est mon appel, c'est là que je suis à l'aise. Le côté médical, notamment pour les femmes, je peux m'en occuper. Le côté médical pour les hommes, je ne peux pas m'en occuper, puisque c'est d'autres compétences, je ne peux pas faire d'examen, etc. Donc, du coup, je suis partie plutôt là-dessus. Ça ne veut pas dire que, évidemment, quand les gens viennent en couple, s'il y a des difficultés de monsieur, ça ne veut pas dire que je ne peux pas en discuter. On va parler, je vais conseiller, je vais orienter plutôt. Donc là, je vais plutôt travailler en réseau. Mais les difficultés masculines proprement dites, j'ai fait le choix de ne pas le faire. Donc, du coup, dans les faits, évidemment, ça ne se produit pas. Donc, soit j'ai des femmes seules qui viennent parce qu'elles ont une difficulté, soit des douleurs, comme je disais tout à l'heure, qui est assez fréquente. Et après, le gros motif, c'est la libido, j'ai pas assez envie, j'ai pas assez de désir, on est décalé dans le couple, etc. Et c'est là où, du coup, je reçois les couples, parce que on ne peut pas traiter le désir de l'un si on voit pas les deux. ça ne marche pas. Je faisais ça au début, mais en réalité, ça ne marche pas. Parce qu'en réalité, dans la plupart des cas, on n'a pas vraiment madame qui a un problème de libido et qui vient se soigner. Puis quand elle aura fini de se soigner, elle retournera retrouver monsieur. Ça ne marche pas comme ça. Donc voilà, ça veut dire que souvent, c'est juste un décalage. Donc il y en a un qui a plus envie que l'autre. Alors je dis madame et monsieur, mais ça peut être l'inverse aussi, évidemment. Pas toujours ça, mais statistiquement, c'est plus souvent monsieur qui a plus envie que madame, dans les couples hétéros en tout cas. Et du coup, ben voilà, on travaille ce décalage, quoi. Comment est-ce qu'on peut vivre ce décalage dans plus de paix? Parce que le décalage, c'est la norme, en fait. C'est impossible d'avoir exactement les mêmes envies au même moment. Enfin, on n'a pas le même appétit, on n'a pas les mêmes envies de sport, on n'a pas les mêmes... Enfin, voilà, les personnes sont différentes, c'est logique. Donc voilà, on apprend à travailler, à apaiser le décalage de la personne qui a plus envie, qui travaille de son côté, la personne qui a moins envie aussi, et puis la relation, etc. Donc voilà, c'est un gros défi, mais c'est passionnant.
Et vous recevez les personnes... plusieurs fois, enfin ça dépend des cas finalement, enfin ça dépend de ce qui se passe.
Oui, ça dépend. Des fois j'ai des gens qui ont juste des questions de est-ce que c'est normal. Je dis ça, est-ce que c'est normal. Par exemple, les femmes qui vont dire, je ne sais pas jusqu'à quel point je peux être explicite, mais en tout cas, qui trouvent qu'elles ont leur plaisir uniquement extérieurement et pas intérieurement. On va dire ça comme ça, et elles ne comprennent pas, elles trouvent qu'elles ont un problème. Et je dis, non, c'est normal, c'est l'anatomie du clitoris qui est faite comme ça. Le plaisir chez les femmes, c'est beaucoup plus facile avec les caresses extérieures qu'avec les caresses intérieures. Et donc, c'est tout, si c'est ça, c'est fini, quoi. Presque en 10 minutes, ça pourrait être plié, il n'y a pas plus à faire. Ou bien, dans mon couple, on a très peu de sexualité, ok, est-ce que c'est difficile pour vous et tout? Non, ça nous va, nous on a beaucoup de tendresse, mais c'est vrai que là, on n'a pas trop envie ou plus trop envie, la maladie, le vieillissement ou même autre chose. Mais on se demande si c'est normal, on se demande si on a un vrai couple, on se demande si on a des problèmes. Mais en même temps, on est bien, mais on se demande si ce n'est pas un problème. Écoutez, si vous êtes bien, c'est que ça vous convient et il n'y a pas besoin d'aller chercher. Voilà, donc ça, c'est des petites consultations cadeaux, j'ai envie de dire, parce que c'est assez simple. On va juste enlever un peu les idées reçues, travailler sur les représentations et là, ça suffit. Après, voilà, quand il y a des douleurs installées, quand il y a un décalage de désir important avec des frustrations, des conflits, quand il y a des problématiques comme le vaginisme, qui sont les muscles de l'entrée du vagin qui se referment et qui empêche quoi que ce soit de rentrer à l'intérieur, là, ça va prendre plus de temps, évidemment. Et après, je travaille aussi en réseau, parce que personne ne peut tout faire. Donc, même, je vous ai dit qu'avec les messieurs, j'adressais, mais même avec les femmes, s'il y a, par exemple, des traumatismes. Donc, moi, je suis beaucoup sensibilisée sur les violences. Je sais détecter, je sais sensibiliser, etc. Mais après, s'il y a vraiment un traumatisme, je ne suis pas psychologue, donc il y a besoin de personnes spécialisées pour traiter le traumatisme, par exemple. Mmh. Voilà.
Parce que c'est dans le cas de violence comme, je sais pas, inceste ou viol ou violence conjugale, etc. Donc là, votre spécialité est un appui, mais comme vous dites, il y a besoin d'aller
sans doute
plus loin et plus profondément et plus longtemps peut-être aussi dans en profondeur, quoi.
Et en même temps, c'est important de juste dire là que c'est pas parce qu'on a eu des violences sexuelles à un moment donné de sa vie qu'on a une vie sexuelle qui va être problématique tout le temps. En fait, des fois, ça dépend tellement, tellement de la manière dont ça a été entendu, reçu sur le moment. Ça, c'est valable pour les violences dans l'enfance ou à l'âge adulte, etc. On sait que un des gros soucis, une des grosses difficultés des victimes de violences sexuelle notamment, parce qu'avec les autres violences physiques, on n'a pas ça, c'est que les gens ne sont pas crus, pas entendus, pas soutenus, plus souvent que l'inverse. Et ça, c'est de la revictimisation. Et donc, là, on a un gros levier à faire en tant que société, en tant que famille, en tant qu'église, en tant que groupe, n'importe lequel, sans même parler de la justice, parce que c'est encore un autre sujet, pour croire les victimes et les accompagner. Et même, comme disait le juge Durand, qui a coordonné la commission civile, on passe de « je te crois » à « je te protège », parce que « je te crois », c'est bien joli, mais qu'est-ce qu'on met en place après derrière? Donc, en réalité, les personnes qui ont subi quelque chose, après, ça dépend la gravité, la durée, l'ampleur, etc., évidemment, hein, mais enfin, quand même, qui ont subi quelque chose, mais qui ont été tout de suite crues, accompagnées, soutenues, que la personne qui a blessé a été mise à l'écart et que la personne qui a vécu a resté dans la famille proche ou dans le groupe social ou dans l'église, etc., eh bien, bien souvent, il peut très bien ne pas y avoir franchement de séquelles. Ça reste un mauvais souvenir, ça reste quelque chose qui est là, mais ça n'a pas d'impact forcément dans le quotidien aujourd'hui. Par contre, évidemment, si en plus d'avoir subi, on a dit, mais fais pas d'histoire, ne mets pas la famille en l'air, ne fais pas faire un scandale dans l'église, enfin, etc., toutes ces choses qu'on entend bien souvent, ben là, par contre, oui, on va avoir des choses beaucoup plus difficiles derrière, quoi.
Il y a besoin d'un travail assez long pour sortir toutes ces choses de soi qui sont si douloureuses.
Oui.
Est-ce que, comme vous êtes chrétienne et que vous êtes, que vous le dites, vous ne le cachez pas, vous avez bien raison, il y a des personnes qui ont entendu parler de vous, peut-être par rapport à votre foi, ou à qui vous l'avez dit, peut-être, lors de rencontres ou de rencontres peut-être ecclésiales ou autres. Est-ce qu'il y a donc des personnes des églises qui viennent vous rencontrer, peut-être plus qu'avant? Est-ce que ça maintenant c'est plus facile parce qu'on en parle un peu aussi en église, ou est-ce qu'il y a toujours un peu de la réticence en église à parler de sexualité?
Ben, disons que ceux qui m'invitent, j'imagine qu'ils n'ont pas de réticence. Mais en même temps, je ne suis pas submergée de demandes non plus. En même temps, tant mieux, parce que je n'aurai pas forcément le temps de répondre à tout. Mais dire que le tabou est levé, non, je ne dirais pas ça. Mais c'est vrai qu'il y a des initiatives, des choses qui se font, qui montrent que tous ceux, notamment, qui ont une éducation très rigide, très négative sur la sexualité, et qui en ont vécu, qui en ont des séquelles aujourd'hui, parfois même quasiment traumatiques. On peut retrouver les mêmes séquelles des fois que sur les violences, quand on a une éducation très très négative et très menaçante sur la sexualité. Attention, attention, attention. Ils veulent faire différemment pour leurs enfants, en fait. Mais sans juger forcément ceux qui étaient avant, parce qu'ils ont fait comme ils ont pu, avec les outils qu'ils avaient, bon, ok. Mais maintenant, on veut essayer de faire différemment et de transmettre quelque chose de plus positif, de plus joyeux, de plus sain, et de se rappeler que c'est quand même Dieu qui a créé le plaisir, c'est Dieu qui a créé la sexualité, et qu'on n'a pas besoin, par principe, d'opposer ces choses et d'en faire que de la menace et du risque, quoi. Donc, voilà. Et c'est vrai que le fait de m'inviter, moi, qui est quand même aussi un pied dans l'église, et je comprends la foi, donc je peux... parler le langage, quoi, de la même manière que les gens qui viennent me voir en consultation, ben, ils savent que je peux prendre en compte leur dimension spirituelle s'ils le souhaitent, et ça, ça rassure, même si c'est pas des réunions de prière qu'on fait, dans le sens où pour ça, il n'y a pas besoin de moi, on va parler de choses concrètes et techniques, mais il y a cet arrière-plan qui est là, et il y a les valeurs, on va dire, spirituelles de chacun qui sont prises en compte, et ça, pour les gens, je crois que c'est rassurant, mais... dans les églises, ça bouge, mais enfin, on a de la marge de manœuvre quand même encore, donc il faut continuer.
Il y a encore du travail.
Oui, il y a encore du travail
à faire. C'est vrai c'est à nous-mêmes aussi, hein, en tant que femme, en tant que personne, d'ouvrir ces sujets, de
ne pas sûr,
avoir...
Bien sûr, comme vous le faites là en ce moment, par exemple.
Parler, de pouvoir... Je trouve que c'est très bien que vous soyez invité ici ou là. Je ne sais pas si ma propre église protestante unie vous invite.
Eh bien, je viendrai si on m'invite.
Je parlerai de vous. Et là, ça en fait partie aussi, hein, parce que Radio Alliance Plus est de culture protestante. Donc,
Tout à fait.
Voilà, donc, et dans nos communautés, oui. C'est une émission où on traverse toutes les questions de vie et de vie spirituelle
magnifique,
pour que les uns et les autres puissent se rencontrer et puissent parler de tout ce qui concerne la vie.
Exactement.
En fait. Mm-hmm. Et c'est vrai que c'est très important de pouvoir se sentir libre d'en parler. Donc, d'aller voir Nathalie Gonzalez. Vous trouverez sur son site... Si vous y allez, vous tapez Nathalie Gonzalez, je pense qu'on vous trouvera sans problème. Oui. Il y a un numéro de téléphone que je peux donner, 06 31 79 16 76. Et puis, vous trouverez tout plein de choses sur le site. Et donc, moi, je vous encourage, mesdames, à aller la rencontrer. Et puis, à ne pas hésiter à parler de ce qui vous préoccupe, parce que je trouve que c'est tellement important dans notre vie d'être bien avec soi-même, d'être bien en tant que femme
et
en tant que chrétienne.
Eh oui. Bien
sûr. Comme vous l'êtes.
C'est réuni.
Voilà, donc je pense que c'est une joie pour vous de faire ce métier. Il me semble qu'il y a beaucoup de passion dans
c'est
ce que vous...
C'est une passion, mais je ne sais rien faire sans passion. Donc si je ne suis pas passionnée, je m'ennuie, je ne peux pas. Donc là, vraiment, c'est bien, il faut que la passion reste, parce que sinon, je ne pourrais pas. Mais oui, bien sûr, il y a vraiment un feu qui brûle là,
Alors, nous n'hésiterons pas à vous recontacter peut-être
avec grand plaisir,
pour d'autres émissions, parce que le sujet des femmes nous tient à cœur.
Ben oui.
Et puis, nous nous retrouverons certainement. Merci,
avec
Nathalie
Gonzalez.
Avec grand
plaisir, merci à vous, merci infiniment.
Bonne suite à vous.
À bientôt.